we act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman.
En principe, les femmes sont soumises, et un jour, elles disent non, elles n'acceptent plus leurs conditions.
So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim.
Nous n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs. C'est-à-dire des images.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans Transhistorien, votre émission d'histoire à retrouver chaque semaine sur Transhistor. Cette semaine, une émission qui tenait tout particulièrement à cœur aux transhistoriens puisque nous nous intéresserons aux problématiques liées à la notion de genre et à l'histoire des femmes, des questions sur lesquelles, il faut bien le dire, on entend un peu tout et n'importe quoi en dehors comme à l'intérieur du milieu universitaire. Pour nous éclairer, nous recevons aujourd'hui Michel Zancarini-Fournel. Michel Zancarini-Fournel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard Lyon 1, membre de l'équipe Genre et Société du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur l'histoire des femmes et l'histoire du genre. Cette spécialité qui, il me semble, est bien plus une grille d'analyse, un ensemble de concepts historiques qu'un objet d'étude parfaitement hermétique, vous a permis de traiter de l'histoire du militantisme, de la colonisation et même celle du sport. Vous avez notamment écrit Histoire des femmes 19e-20e siècle, publié par les presses universitaires de Rennes, où vous faites le point sur l'histoire des femmes à l'époque contemporaine. Alors je laisse tout de suite la parole à Marie pour évoquer cet ouvrage.
Alors j'ai une première question qui est d'abord une espèce de prérequis pour nos auditeurs. Dans l'introduction de votre manuel, vous précisez que l'histoire des femmes c'est à la fois l'histoire au féminin, l'histoire du genre et les femmes dans l'histoire. Est-ce que vous voulez bien expliquer à nos auditeurs quelles sont les définitions de ces trois concepts et quelles sont les nuances entre eux et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les confondre?
Alors, d'abord, je voulais dire que ce livre, c'est un cours pour la préparation à un concours pour les professeurs de lycée professionnel qui avaient pour la première fois à leur programme l'histoire des femmes. C'était une aventure puisque ça n'a pas été fait ni pour le CAPES ni pour l'agrégation encore de ce point de vue-là. Ce qui explique l'aspect didactique, on va dire, pédagogique du manuel. Donc c'est la raison pour laquelle j'expliquais les trois raisons. Donc je réponds à votre question maintenant après un petit détour. C'est en fait une espèce de bilan très rapide de comment s'est développée l'histoire des femmes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est intéressé à l'histoire au féminin, c'est-à-dire où sont les femmes dans l'histoire. Dans un premier temps, on a dit aussi que il n'y avait pas de femmes dans les archives, on les trouvait pas, enfin, les archives ne concernaient pas les femmes, etc. Puis après, on s'est mis un peu à travailler, ça c'est le début des années 70, 1970, et on a trouvé les femmes dans les archives, il suffisait de les chercher.
Elles voilà. étaient bien là.
Elles étaient là. Bon. Ensuite, venant effectivement des États-Unis et en particulier d'un groupe qui travaillait autour de John Scott, c'est la question du genre, disons, est intervenue dans l'histoire des femmes, l'histoire au féminin. Et bon, moi j'ai eu la chance d'aller à un des séminaires de John Scott aux États-Unis au moment où se forgeait le concept. Et donc on a été très tôt initiés à cette question de l'histoire du genre, en 1984. Les femmes dans l'histoire, c'est un point de vue qui a été défendu par une historienne qui s'appelle Michèle Rio-Sarcey, selon lequel on ne devait pas faire une histoire des femmes à part, ou une histoire du genre à part, mais intégrer les femmes dans une histoire générale. Ce que, sans l'avoir énoncé, si vous voulez, moi j'ai plutôt fait, puisque quand on voit ma bibliographie, j'ai beaucoup fait une histoire générale où on parle de l'histoire des femmes et du genre et non pas une histoire séparée.
Oui, alors moi je voulais m'interroger, alors maintenant que vous dites que ça émane d'un cours, peut-être que ça vous semblera idiot de demander quel est un peu de justifier ces bornes chronologiques et ce pourquoi du début d'un début de votre étude à la Révolution française, mais il me semble que c'est intéressant au-delà du fait que la Révolution française marque avec une certaine facilité le début de l'époque contemporaine. Est-ce que c'est pas aussi une époque très intéressant du point de vue de l'histoire des femmes, justement, avec un peu un vrai tournant marqué dans cette histoire?
Alors oui, c'est lié effectivement à l'histoire de France. Non pas parce que c'est le début de la période contemporaine, qui, vous savez, une spécificité française qui est quand même très discutée. Hein, quand on étudie l'histoire de la Révolution française, on voit que tout n'a pas commencé le 14 juillet 1789. Donc voilà.
Ah, mais... surprise. Ah bah alors.
Bon, mais effectivement, parce que du point de vue de l'histoire, de la place des femmes dans l'histoire, on pourrait reprendre le concept qu'a appliqué Bobbio à la laïcité. La Révolution française représente un seuil. Elle représente un seuil parce que les femmes sont présentes dans l'espace public. Elles revendiquent, alors des minorités bien sûr, hein, mais elles revendiquent une place comme citoyennes. Elles sont dans la période ce que Dominique Godinot a appelé des citoyennes sans citoyenneté, c'est-à-dire qu'elles veulent exercer un certain nombre de droits de citoyennes, mais elles n'en ont pas les droits juridiques. Hein. Et puis la Révolution française, on l'oublie un peu, et c'est lié justement à la question de ce seuil de laïcisation, c'est quand même la période où a été pour la première fois admis le droit au divorce, qui a été supprimé après, limité par Napoléon Ier et supprimé en 1816, pour être rétabli seulement en 1884, mais la Révolution l'a établi en 1792. Donc du point de vue, il y a eu une reconnaissance aussi des enfants naturels, qu'on appelait à l'époque les enfants bâtards, ça aussi ça a été supprimé. Donc toute une série de droits qui ont été acquis dans un temps très bref, qui ont été complètement remis en cause avec le Code civil en 1814, mais cette période-là était tout à fait florissante de ce point de vue-là, à la fois de l'action, de la capacité d'agir des femmes dans l'espace public, mais aussi d'un certain nombre de droits accordés ou non accordés, puisque en 93, elles ont été interdites de clubs, justement de se rassembler dans l'espace public à plus de 4 ou 5, je sais plus. Et voilà, donc si vous voulez, c'est une période très très brûlante de ce point de vue-là.
D'accord. Vous avez peut-être quelques exemples de femmes qui ont agi de manière particulière, parce qu'on a souvent quelques clichés en tête à propos de cette période. On pense, je sais pas, on pense peut-être aux tricoteuses de Robespierre qui ont un rôle cantonné assez féminin, enfin féminin entre guillemets, une attribution des tâches assez féminines. Est-ce qu'on a des exemples
Oui, il y a toute une série d'autres exemples. Alors, j'ai pas les noms précis en tête, mais d'abord, un des premiers moments d'expression des femmes, c'était la marche des 5 et 6 octobre 1789, où les femmes de la Halle parisienne sont allées donc à Versailles chercher le roi, la reine, et ça a changé le cours même de la Révolution française, puisque ce n'est plus Versailles mais Paris, et on l'oublie tout le temps. On a en tête globalement, parce que c'est dans tous les manuels, une espèce de gouache où on voit des harengères pas très sympathiques en train de, justement, avec des piques, des armes, des canons, et voilà, une foule de femmes. Mais en réalité, c'est beaucoup plus important que cette gravure.
Alors moi, j'ai une question sur un autre aspect de cet ouvrage, puisque vous nous avez dit que c'était un cours
au départ. Oui,
au départ
c'était réécrit quand même.
Voilà. Et ma question porte sur cela précisément, c'est-à-dire quand on écrit un manuel, à quelles contraintes on fait face? Je pense par exemple le choix dans la bibliographie, comment choisir dans la bibliographie, comment synthétiser un certain nombre de travaux. Est-ce qu'il y a des pressions particulières? Est-ce que l'éditeur a des attentes, a un certain nombre d'attentes? Quel type d'attente a un éditeur par exemple?
Alors les pressions, il y en a de tous ordres. D'abord, la bibliographie ne doit pas être trop importante, même s'il y a plus de lectures que n'en comporte la bibliographie, tout simplement parce que ça ne sert à rien de donner depuis des années, des dizaines d'années, on donne d'énormes bibliographies aux étudiants qui ne servent strictement à rien.
Voilà. On peut le confirmer, oui.
Oui.
On est tous un peu soulagés d'entendre ça.
Oui, tout à fait. Donc, c'est l'écriture. Donc, ça doit être une écriture qui est une écriture à la fois précise, mais pas trop compliquée, hein, qui allait aussi avec le niveau du concours, mais pas seulement pour tout lecteur, pour un grand public. Il me semble qu'il faut avoir une écriture simple, voilà, qui puisse être accessible à tout le monde. Sinon, alors il y a effectivement dans le plan, si vous voulez, il y a un plan. C'est une des questions que j'ai eues de lecteurs, enfin de recenseurs, on peut dire, en disant c'est un peu coupé parce que j'ai distingué des parties très, pour que ça soit bien clair, quoi, pédagogique. J'ai distingué les femmes et la politique, les femmes et la famille, et puis les représentations, etc. Alors évidemment, c'est évident que ces trois domaines devraient être imbriqués,
oui,
si vous voulez, entremêlés. Mais quand des étudiants ne connaissent pas du tout la question, il fallait que ça soit assez, enfin, pour moi, en tout cas, en tant que professeur qui ai beaucoup fait de la formation, donc je suis très sensible à cette histoire de la transmission, comment on transmet, si vous voulez, il me semble que il faut essayer d'être, voilà, au risque de simplifier. On peut me dire que c'est simplificateur. Bon, j'ai fait d'autres ouvrages ou d'autres articles où c'était un peu moins simplifié, mais là, ça me semblait indispensable de mettre des choses extrêmement carrées. Et puis l'autre élément que j'ai fait dans ce manuel, c'est que j'ai essayé de faire au début de chaque chapitre un état bref de l'historiographie, c'est-à-dire les débats qu'il y a sur une grande question. Par exemple, j'ai fait les femmes et les guerres, mais j'ai fait un petit paragraphe que j'ai mis dans des encadrés pour dire où on en est de l'historiographie. C'est-à-dire très rapidement, il est évident qu'il n'avait pas le temps de lire tout ce qu'on avait écrit sur la guerre de 14-18, encore moins cette année, mais bon, ça c'est encore un problème. Quand j'ai écrit, c'était un point sur l'historiographie telle qu'elle existe. Et puis j'ai essayé de faire ça sur les écrits aussi, enfin, à différents moments dans le manuel, voilà les contraintes. Et puis les contraintes-ci de l'éditeur, c'était très peu de notes. Alors, vous savez, les historiens sont terrifiés quand on peut pas mettre de notes. Évidemment, surtout dans un ouvrage de synthèse. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je n'ai pas écrit sur l'ensemble des deux siècles. Donc, j'ai pris un certain nombre d'informations chez des collègues. Et ne pas pouvoir les citer parce que je n'avais pas le droit à plus de 2 ou 3 notes par page, c'est parfois un peu difficile, voilà.
Alors, donc on a affaire à un manuel donc chez un éditeur universitaire, par un éditeur commercial, donc un certain public quand même. On va parler justement du public des histoires des femmes. Vous dites dans votre manuel que c'est cette question des femmes dans l'histoire est plutôt bien accueillie par le grand public, alors qu'à l'inverse, ça ne convainc pas toujours du côté des universitaires. Comment vous expliquez un peu ce double paradoxe ?
Alors, du point de vue du grand public, je pense que, enfin, je m'appuie sur une chose très simple. Il y a eu une grande synthèse qui s'appelle L'histoire des femmes en 5 volumes, qui était dirigée par Georges Duby et Michel Perrault, que vous connaissez sans doute, qui est en usuel dans nombre de bibliothèques universitaires et municipales, et qui était vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires.
D'accord. Voilà. Gros succès.
Gros succès, voilà. Et alors que le niveau est assez, n'est pas du tout bradé. Et alors pourquoi les universitaires ? L'histoire des femmes et du genre n'a toujours pas bonne presse. Alors il y a un tout petit peu plus d'ouverture, un tout petit peu plus. Mais pourquoi ? Parce que l'histoire universitaire scientifique s'est construite complètement en lien avec la République. Hein. Le premier numéro de la revue historique qui fonde l'histoire scientifique est 1876. Au moment où s'installe la République, et que la République, elle est universaliste, mais universaliste masculine, si je pourrais dire, de genre masculin, c'est-à-dire que ça a un lien, l'histoire scientifique universitaire, a un lien avec la construction de l'État, la construction de la République, qui est de genre masculin. Mmh. Et ce lien très fort entre le genre masculin de la politique, de la langue, de la discipline historique perdure et de la politique perdure. Il n'y a qu'à voir tous les débats qu'il y a à l'heure actuelle sur la question des femmes en politique, par exemple. Donc, c'est au nom de l'universalisme, on voit pas pourquoi on ferait une histoire de groupes séparés. Alors, ça pose aucun problème d'étudier les prêtres, d'étudier les ouvriers, etc. Mmh. Mais les femmes, non, c'est un groupe séparé. Voilà. Mmh. C'est en ce nom-là, de la même façon, on a eu beaucoup de retard en France à faire l'histoire des immigrés, de l'immigration, à faire l'histoire coloniale. Mmh. Voilà, c'est une histoire complètement séparée de l'histoire globale. Ça change doucement, mais ça change quand même depuis 10-15 ans, on va dire, voilà.
C'est vrai qu'il me semble aussi que ça souffre aussi de l'image d'une sorte d'effet de mode où on parlait de ça, et ça serait une sorte d'objet d'étude très précis avec lequel, voilà, on nous rabattrait un peu trop les oreilles. Mais il me semble qu'on oublie peut-être que le genre c'est aussi un concept et ça s'applique pas uniquement aux femmes. Il y a tout un courant d'histoire des masculinités, d'histoire des hommes, et pas d'histoire des hommes comme on a eu tendance à le faire, c'est-à-dire d'histoire des hommes en tant qu'individus sexués, en tant qu'hommes. Et c'est un nouveau courant, ça aussi.
C'est un nouveau courant en France. Combien avez-vous eu d'heures de cours sur l'histoire des femmes et sur l'histoire des hommes entre qu'individu sexué.
Malheureusement eu assez peu.
Voilà.
Et puis il y a une différenciation selon les périodes aussi. Oui. Je crois que c'est des questions qui sont plus souvent abordées sur les périodes contemporaines,
oui,
et éventuellement modernes, et qu'on aborde, et c'est sans doute dommage, beaucoup moins par exemple en antique ou en médiéval.
Ça c'est dans vos études, parce qu'en fait il y a des études absolument formidables en histoire antique. Hein, Oui. Et bon, une des grandes historiennes, malheureusement aujourd'hui disparue, mais qui a Nicole Laureau, qui a fait énormément pour l'histoire d'Athènes, et l'histoire d'Athènes qui passait par la question du genre aussi. Hein, La cité divisée, c'est un très grand livre. Enfin, voilà, le volume d'histoire des femmes sur l'Antiquité est absolument remarquable, si vous voulez. Il est même extrêmement complexe parfois, à la fois dans une approche anthropologique, dans une approche des représentations, des mythes, le mythe de la première femme, Pandora, le mythe des Amazones, enfin tout ça est tout à fait, ça existe. Alors qu'on ne l'enseigne pas, c'est une chose, particulièrement ici, mais que ça n'existe pas, non, pas du tout. Pas du tout. Pauline Schmitt a été une très grande professeure à l'université Paris 1. Il y a une autre professeure maintenant en histoire grecque qui a pris sa succession.
C'est aussi un paradoxe que vous évoquez dans l'introduction de votre livre, il me semble, qu'il y a aussi une grande vitalité de la recherche. Il y a énormément de recherche qui se fait en histoire du genre, en histoire des femmes, et pourtant, voilà, un peu difficulté à gagner un peu une reconnaissance universitaire, alors même qu'il y a beaucoup de recherche dans ce domaine.
Puis la difficulté. Écoutez, à l'enseigner. Et...
Oui, voilà. Juste un chiffre, il y avait 2 chaires d'histoire des femmes en France, et maintenant il n'y en a plus qu'une.
Ah, d'accord.
Comme professeur, parce que je suis en retraite en fait, je suis émérite, donc voilà, j'avais une chaire en histoire des femmes, il n'y en a plus, dans mon université, si vous voulez, voilà. Donc voilà, c'est simple, hein, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle. Il y a un très grand appétit, il y a énormément, et d'ailleurs, moi c'est une de mes grandes angoisses de voir que de jeunes femmes, de jeunes garçons, de jeunes hommes se mettent à faire des recherches là-dessus. Alors, pourquoi une grande angoisse? Sur avis, évidemment. Mais après, il faudrait qu'ils puissent avoir des débouchés pour leurs recherches. Et ça, c'est pas du tout évident parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, le nombre de postes n'a pas suivi. Et c'est, on n'est pas dans une période non plus d'expansion des postes, n'a pas suivi le développement de la recherche de ce point de vue-là pour les jeunes. Voilà. Voilà d'où il y a mon angoisse. Pas du tout qu'il y ait des recherches. Je trouve ça très bien et ils innovent, ils prennent des pistes que l'on n'a pas défrichées. C'est très bien.
Alors, moi, j'ai une autre question sur un tout autre sujet, puisque j'ai lu un de vos articles sur le travail féminin pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, vous vous interrogez dans cet article sur la rupture que représente le conflit dans le travail des femmes, puisque vous rejetez à la fois le cliché qui veut que les femmes aient commencé à travailler avec la guerre, et vous expliquez que le conflit accélère un certain nombre de mutations déjà commencées dans l'industrie et dans le tertiaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors c'est quelque chose contre lequel on se bat, on peut dire. Je dis « on » parce que je suis pas la seule. Hein. Françoise Thébault a beaucoup écrit aussi sur cette question-là. Depuis très longtemps, et on voit encore dans certains manuels, que les femmes sont entrées dans les usines, dans les bureaux, avec la Première Guerre mondiale.
Bon. Oui, moi je me souviens l'avoir appris en CM1.
Voilà, en CM1 et même au-delà. Hein. Oui. Il y a des manuels du secondaire, voire du supérieur, où c'est encore marqué. Donc si vous voulez, c'est une vraie question. C'est-à-dire que non, les femmes ont travaillaient avant la Première Guerre mondiale. Elles ont d'ailleurs toujours travaillé. Elles travaillaient dans l'agriculture de façon majoritaire, mais elles travaillaient aussi dans l'industrie et elles commençaient à travailler dans les bureaux. C'est-à-dire que la révolution dans les bureaux, le passage de ce qu'étaient les hommes dans les bureaux aux femmes dans les bureaux, eh bien, c'est du début du XXe siècle. Donc la guerre n'a pas ouvert ces postes-là. Simplement, les hommes étant pour une part au front, les femmes les ont remplacés, et ça a augmenté, on peut dire, c'est une augmentation quantitative, si je peux dire, mais pas qualitative, au sens où elles y étaient déjà. Et un des points sur lequel je me bats, mais ça fait partie des choses contre lesquelles on se bat et sans beaucoup de succès, c'est de dire que les femmes sont entrées dans la métallurgie avec la Première Guerre mondiale. Mmh. Or, j'ai personnellement dépouillé un certain nombre de registres de main-d'œuvre de grandes entreprises métallurgiques dans la région de Saint-Étienne, et on trouve entre 8 et 11% de femmes travaillant dans la métallurgie avant la Première Guerre mondiale. Donc elles ne sont pas entrées dans la métallurgie avec la guerre. Simplement, elles ont été embauchées dans des usines de guerre. Et là, c'est quelque chose qu'a très très bien décrit Françoise Thébault, en particulier dans le volume 5 de l'histoire des femmes dont on parlait tout à l'heure. Cette représentation des femmes, qu'on a d'ailleurs appelée d'un diminutif un peu... les munitionnettes, hein, un peu péjoratif, ces femmes qui étaient dans un travail de mort, on pourrait dire, c'est-à-dire fabricant des obus, etc., ce contraste entre l'image de la femme comme amante de la paix, la douceur féminine, enfin tout ce qu'on attribue à la nature féminine et cette industrie de guerre, hein, si vous voulez, fait qu'il y a une contradiction forte là-dessus, et c'est ce qui fait rejeter cette image des femmes travaillant dans la métallurgie, dans les usines de guerre. Mais elles ont été aussi dans les bureaux, elles ont été aussi, elles ont travaillé comme infirmières, elles ont été dans l'enseignement, beaucoup, hein, on l'a pas assez dit, mais effectivement, les instituteurs, les professeurs étaient au front et les femmes sont allées travailler dans les lycées de garçons, alors qu'elles étaient jusqu'à présent interdites dans les lycées de garçons, elles en sont travaillées dans les écoles primaires, etc.
Et c'est peut-être un peu naïf comme question, mais vous disiez qu'on retrouvait encore cette erreur, ce cliché dans des manuels parfois de l'enseignement supérieur. D'où ça vient, à votre avis, pourquoi a-t-on encore de telles erreurs? Comment ça peut passer dans les comités scientifiques qui rédigent les manuels ou qui au moins les relisent?
Vous êtes très optimiste de penser qu'il y a des comités scientifiques qui relisent les manuels. Il faudrait d'abord que dans les comités scientifiques, que les personnes, s'ils existaient, que les personnes qui relisent, soient au fait de cette histoire-là, si vous voulez. Et voilà. Et c'est pas du tout, c'est pas acquis. C'est pas acquis encore. Bon, on a fait des progrès, hein, faut pas être trop négatif, mais c'est pas vraiment acquis. Par exemple, dans les manuels scolaires, aujourd'hui, et peut-être vous-même, bien que ça soit quand même un peu lointain, vous avez peut-être eu la question des femmes pendant la guerre de 14-18 dans un dossier à part. Dans un dossier à part dans les manuels scolaires, aujourd'hui, c'est courant de voir tout un dossier sur les femmes pendant la guerre. Alors, on est passé des femmes dans les usines de guerre à maintenant les femmes éplorées. Donc, on est passé aux veuves, etc. Donc, voilà, ça a un peu bougé sur la représentation des femmes pendant la guerre. Mais bon... ça existe, mais comme dossier séparé, c'est-à-dire, vous voyez bien que l'intégration, on peut dire, de cette histoire-là dans une histoire générale, qui bouge aussi l'histoire générale, c'est ça la question, c'est pas une histoire séparée, c'est que ça influe sur l'histoire générale, et si on prend ce point de vue-là, on peut lire autrement l'histoire générale.
Oui, en arrêtant de considérer que le masculin, c'est le neutre de l'histoire et que il faut rajouter les femmes par petites touches un peu impressionnistes dans des manuels ou ailleurs.
Alors moi j'aimerais parler un petit peu de ce que, enfin vous aviez vraiment souligné la réception un peu bienveillante qu'il y avait par le grand public de l'histoire des femmes. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu un changement depuis justement la publication de l'histoire des femmes dirigée par Georges Duby et Michel Perrault? Surtout dernièrement avec certains groupes qui se sont constitués ou renforcés dans le cadre de l'opposition à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et ces groupes qui ont vraiment essayé d'alarmer le grand public contre une dangereuse théorie du genre. Alors l'inexactitude de ce que ces groupes avancent n'est plus à prouver, mais comment vous positionnez face à ce terme de théorie finalement? Est-ce que il faudrait impérativement bannir ce terme ou en privilégier d'autres plus neutres tels que études de genre? Comment vous positionnez face à ça?
Personnellement, oui. Vous voulez dire. Alors personnellement, quand il y a eu ces attaques d'une violence inouïe quand même sur la théorie du genre, vous êtes aussi optimiste de penser qu'il n'y a plus besoin de le démentir. si vous voulez, on a dit tout de suite, il n'y a pas de théorie du genre. Et de mon point de vue maintenant, avec un peu de distance, c'est une erreur. Oui. Parce que ça veut dire que on ne réfléchit pas théoriquement, ce qui est complètement faux. Quand on fait de l'histoire, on réfléchit aussi théoriquement, il y a une épistémologie de l'histoire et on s'appuie sur des théories. Et alors il n'y a pas une théorie du genre, mais il y a des théories du genre et il y a des façons de concevoir les études de genre. Et voilà, il y a eu de ce point de vue-là un recul par rapport à l'offensive. Le recul a été non seulement celui du ministère de l'Éducation nationale et à l'époque du ministère de la Recherche, puisqu'il y avait un ministère de la Recherche, que aussi dans le grand public, c'est-à-dire qu'on a été quand même acculé à défendre des acquis théoriques qui avaient quand même maintenant grosso modo un quart de siècle quoi. Et ça a été violemment remis en cause quand même, comme si on voulait imposer une théorie du genre, c'est-à-dire une conception de la famille particulière ou la destruction de la famille, on peut dire c'était ça qui était derrière, hein, contre une famille très on peut dire traditionnelle. Il y a comme modèle de famille, voilà, un modèle de famille, pas d'ailleurs tout était le papa, la maman et les enfants en bleu et rose, hein.
Alors, je vous remercie, Michel Zancarini-Fournel, pour toutes ces précisions passionnantes sur l'histoire des femmes et plus largement sur le travail de l'historien. Je souhaiterais vous laisser le mot de la fin avec cette question traditionnelle désormais. Quels conseils donneriez-vous aux futures historiennes et historiens qui vous écoutent ?
Bien sûr, faire de l'histoire des femmes, des hommes et du genre. C'est évident. Et en faire, pour moi, voilà, mais c'est une personnelle, en faire dans une histoire globale, c'est-à-dire prendre n'importe quelle question qui les intéresse, et puis dans cette question-là, ne pas oublier qu'il y a non seulement l'histoire des femmes et du genre, mais qu'il y a d'autres catégories qui sont extrêmement importantes, qui sont la classe sociale, même si c'est un vilain mot maintenant, la race, même si c'est un vilain mot, et que on a toute une série d'éléments, disons, qui peuvent, qui influent sur le traitement d'une question de tous ordres, je vous dis, vous fassiez de l'histoire ancienne, médiévale, enfin, etc., ou contemporaine, voir comment ces différentes catégories transforment le récit historique. Voilà. Donc, je plaiderais pour cette intégration, on peut dire, mais une intégration qui n'est pas unique.
Alors, cette émission touche désormais à sa fin. Je remercie Pauline pour son aide précieuse en régie, Clément et Marie d'avoir participé avec autant d'énergie et d'enthousiasme à la préparation de cette émission. Et enfin, je vous remercie vous, Michel Zancarini-Fournel, d'avoir accepté de vous joindre à nous.